Perspective de médiation, bonjour, avec Joël de la revue Intermédiaire. Nous recevons aujourd'hui Amandine Bernascon, qui est coach et médiatrice. On va parler des deux métiers, des deux approches. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui est différent? On va beaucoup parler des médiations d'équipe et les coachings d'équipe. C'est quoi la différence? Est-ce que tout coaching d'équipe cache une médiation quelque part ou pas? Est-ce qu'on peut switcher de l'un à l'autre? C'est très intéressant, Amandine, elle est très compétente, elle est très claire dans la tête, j'ai beaucoup aimé. À tout à l'heure.
Bonjour Pascal, bonjour Amandine. Alors aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast Perspective et médiation et intermédiaire. Nous allons parler de coaching et de médiation. Amandine, peut-être tu peux te présenter toi plutôt que de faire voilà ta présentation. Alors voilà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Okay. Bah déjà, merci beaucoup à tous les deux de m'inviter sur ce podcast. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Donc moi, je suis Amandine Bernascon. Je travaille depuis 12 ans sur la médiation et l'accompagnement des personnes dans les milieux organisationnels. Donc j'accompagne en grande majorité les entreprises et les organisations sur la manière dont l'humain est traité, géré et perçu. Donc, j'ai trois outils dans mes accompagnements. La médiation, puisque j'interviens en tant que médiatrice pour réguler les conflits interpersonnels du travail, surtout en médiation conventionnelle. J'ai quelques judiciaires, mais j'interviens surtout en conventionnel. La deuxième casquette, c'est la casquette de formatrice, puisque je forme les salariés, les cadres, les dirigeants aux outils de la médiation et de la gestion de conflits, au service de la régulation des tensions dans les équipes, dans les directions, dans les associations, puisque ça peut être aussi entre associés. Et la dernière casquette que j'ai trouvée, moi, très intéressante pour compléter mes accompagnements, c'est celle du coaching, puisque j'accompagne, en général, ce sont des managers ou des personnes en posture de direction ou des directeurs, pour améliorer les compétences. Et là, on verra ça tout à l'heure, mais c'est plus pour progresser sur une thématique particulière. J'ai trouvé intéressant de compléter voilà, mes outils en tant qu'accompagnante. Voilà, pour terminer, je peux dire que j'habite en Vendée, près de Nantes. J'ai déménagé il y a 3 ans et que mon activité, je la pratique depuis 8 ans en indépendante et voilà, depuis 12 ans, puisque j'étais aussi en cabinet de conseil et de médiation en tant que salarié avant. Voilà pour ma petite présentation. N'hésitez pas à me poser des questions dans le déroulé. Si jamais vous voulez plus d'exemples, je serais ravie
Oui,
d'en donner.
j'ai une très rapide, si tu peux juste en deux
Allez,
mots
allez,
dire.
c'est parti.
Mais tu disais médiation conventionnelle, je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça signifie.
Oui, donc je disais en conventionnel plutôt. Pour les médiateurs qui nous écoutent, donc la médiation conventionnelle, c'est une médiation qui se pratique avec une convention, un contrat que l'on va passer avec soit un commanditaire, soit les parties directement, et qui signifie que la médiation n'a pas lieu dans un processus judiciaire où nous ne sommes pas saisis par une magistrature ou un juge, mais on est bel et bien dans un cadre où les parties elles-mêmes nous saisissent ou un certain commanditaire nous saisisse. Donc, un exemple, c'est un DRH qui choisit de me saisir en tant que médiateur. Il va passer une convention avec mon entreprise, donc mon cabinet de médiation, et il n'est pas du tout dans un processus de judiciaire. Et donc, comme il n'y a pas de dossier et de saisine judiciaire, on parle de médiation conventionnelle. Qui est donc régi par cette fameuse convention d'entrée en médiation. Voilà.
Merci.
Et c'est rigolo que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'on utilise ce terme en France conventionnel pour différencier de la médiation en fait judiciaire. Mais en médiation judiciaire, moi j'en fais beaucoup, on passe une convention aussi hein, entre les parties et le centre de médiation et les médiateurs qui vont. Donc ça reste aussi quelque part de la conventionnelle, puisque quand on fait une médiation, on va faire une convention quelque part avec les parties.
Ouais, bah, ça serait intéressant de se demander d'où vient le terme conventionnel aussi. Et c'est vrai que la manière dont tu es saisi se fait par une convention, en tout cas
Un mandat, en fait, tu dis convention, un mandat, oui.
Ouais, ça se fait par un mandat, alors que en judiciaire, tu es vraiment saisi par une instance.
C'est vrai.
Là, c'est
Il y a une
judiciaire.
différence, ça c'est sûr. Ouais. Voilà.
Merci.
Et quand tu t'es formé, en fait, c'était plutôt au départ en médiation ou en coaching?
Non,
Qu'est-ce qui
je suis
est...
formée en médiation d'abord, moi. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a fait amener à la... au coaching? Alors du coup, comment tu t'es dit, bah voilà, il faut quand même que je complète ma formation ou qu'est-ce qui a été déterminant?
Donc moi j'ai commencé dans mes pratiques d'accompagnement, puisque pour moi la médiation c'est une forme d'accompagnement, c'est une forme d'accompagnement de la relation, mais c'est une forme d'accompagnement. J'ai commencé avant la médiation à me former en CNV. J'ai commencé, j'avais 20 ans à faire les trois premiers modules de communication non violente. Hein. Donc pour rappel, très rapidement, la communication non violente est un outil qui permet de s'adresser à l'autre ou d'être à l'écoute de l'autre de manière à faciliter la relation pour qu'elle reste la plus non violente ou bienveillante possible. Et en fait, quand j'ai eu un coup de foudre pour la CNV, mais complètement, je me suis dit, bon, ça, c'est sûr que ça va être mon métier. Alors, je ne sais pas ce que je vais y faire, mais que ce soit une formation, du coaching ou de la médiation CNV, je ne sais pas, mais je savais que j'allais faire ça. Quand j'ai fait mon premier module, je me rappelle très bien, c'était avec Isabelle Delsplat, que je recommande vivement d'ailleurs en tant que formatrice. Je m'étais dit, il faut que je trouve un métier qui va me permettre d'accompagner avec la CNV. Donc j'ai tapé sur Google, accompagnement CNV, outils non-violence, et j'ai trouvé, je suis tombée sur la médiation. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que la médiation? Et j'ai regardé les instituts de formation en médiation, j'ai vu qu'il y avait des diplômes universitaires, j'ai vu qu'il y avait un diplôme d'État, et je me suis dit, ah mais ça c'est formidable, parce que moi j'avais un bac plus 4 quand même, et je m'étais dit, j'ai jamais terminé mon master, peut-être qu'il y a un master qui correspond à quelque chose qui tourne autour d'accompagner les entreprises sur la non-violence et la CNV. Et en fait, quand j'ai lu le programme, donc à l'époque c'était des DU et du master, voilà, des masters et des maîtrises qui étaient proposés, il y avait la CNV, l'analyse systémique, etc. Et donc c'était pas le coaching qui m'est venu parce que je trouvais que dans la médiation, il y avait vraiment cette idée de tiers présent, qui est beaucoup moins présent dans le coaching, on en parlera après, mais un tiers qui viendrait renouer la relation dans des contextes où les ruptures de liens existent, quoi. Et d'ailleurs, Rosenberg lui-même, hein, donc le père de la CNV, hein, Marshall Rosenberg, dit très bien qu'il a été faire des médiations dans des organisations à l'international, entre différents d'ailleurs peuples également. Et donc, bah, j'ai commencé par ça. Voilà.
Donc CNV, c'est un type, tu appelleras ça un type de médiation ou enfin un type de gestion de conflit, un type d'accompagnement. On est trois aussi en CNV, sur les deux parties médiateurs.
Est-ce que tu dis quoi? J'ai pas compris ta question.
En ce qui concerne CNV, il y a aussi, c'est le même setting qu'une médiation, deux parties, un médiateur, une médiatrice.
En CNV, en fait, la CNV, c'est un. Je réponds à ta question, Pascal, et puis tu me diras si j'ai bien répondu. En CNV, sont des étapes, en fait, hein. Dans la CNV, il y a quatre étapes qui me permettent plusieurs choses dans la relation, mais ce n'est pas un type de médiation. En revanche, l'école de la CNV, comme différentes écoles d'ailleurs de médiation en France, l'école de la CNV a créé son propre processus de médiation qu'ils appellent la médiation.
Ah.
Et moi, je n'ai pas choisi de me former chez eux pour ce qui est de la médiation. Moi, j'ai choisi de me former à l'IFOMEN en passant à l'époque sur le master qui durait un an, qui était le master 2 qui s'appelait médiation et communication pour accompagner les crises et les conflits dans les entreprises. Pourquoi j'ai pas choisi l'école de médiation CNV? Eh bien, tout simplement parce que je trouvais que le master était plus complet pour accompagner dans la dynamique des organisations. Comme moi, j'avais une expérience d'entreprise et que j'avais vu à quel point il y avait une nécessité d'accompagner sur des conflits, j'ai préféré passer par justement un diplôme, voilà, un diplôme reconnu pour avoir le master 2, quoi. Et puis je trouvais que c'était, voilà, que le programme était assez costaud sur l'analyse systémique et pas que la CNV. Voilà. Ça répond à ta question.
Est-ce que c'est
Absolument.
répondre à la question, Pascal? C'est bon.
Merci, absolument.
Donc, si on a bien compris, tu as différentes casquettes. Quel est, selon toi, le point commun ou ce qui peut être complémentaire, en fait, avec la médiation, entre coaching et médiation?
Ouais, alors donc peut-être pour commencer là-dessus, Joël, pour répondre à ta question, pourquoi je me suis formée en coaching ensuite. Alors déjà, mes deux parents étaient thérapeutes, hein, donc mes deux parents avaient une approche.
Là-dedans.
Donc en fait, quand j'ai pratiqué la médiation, à la fin des médiations, en tout cas les premières que j'ai pratiquées, je ne sais pas si c'est par le fruit du hasard, mais il en ressortait qu'une partie de l'équipe ou une partie des associés ou une partie du CODIR devait être accompagnée un peu plus derrière la médiation, suite à la médiation. Un exemple, un manager, à la suite de la médiation, se rend compte en fait que sa communication est tout à fait maladroite et qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses pendant les 3 dernières années qui ont été abordées en médiation s'il avait bossé un peu sur ses soft skills, hein, sur ses compétences. Et donc,
On connaît, on connaît.
à la suite de 2 ou 3 médiations, les parties elles-mêmes, les médiés, ont dit bah, peut-être une formation ou un coaching pour permettre ensuite de continuer le travail, que ça ne se reproduise pas, etc. Donc déjà, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est que le coaching? Et apparemment, suite aux médiations, on peut le prescrire. Mais vous savez bien, vous comme moi, que comment est-ce qu'on peut prescrire quelque chose si on ne sait pas ce que c'est, hein? Notamment nous, en médiation, on essaye de développer notre médiation et la médiation, mais si on ne sait pas la prescrire, c'est compliqué. Donc voilà ce qui m'a amené à me former en coaching, c'était pour mieux le prescrire et mieux savoir de quoi il s'agissait, et puis aussi connaître les limites de mon rôle en tant que médiateur, et justement ne pas tomber dans une posture de coach sur certains moments. Là où je trouve que ces deux pratiques se rejoignent, hein, c'est ça la question, Joël, on
Oui,
commence.
c'est la complémentarité en fait. À quel moment tu sens qu'il y a une complémentarité entre ces deux pratiques, on va dire?
Alors, déjà, toutes les deux, elles visent à améliorer un système relationnel, hein, que ce soit le coaching ou la médiation, toutes les deux, elles visent à améliorer un système relationnel donné. Toutes les deux, elles cherchent à faire réfléchir les personnes du système et à les rendre les plus autonomes possibles, hein, dans la relation. Je trouve qu'il y a une certaine notion d'impartialité dans les deux. C'est-à-dire qu'on est tiers, on est invité, on n'est pas là pour dire à la place de l'autre. Voilà. Là où elles se complètent, où elles sont complémentaires, je trouve, c'est dans la prescription que chacune peut donner à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais une médiation que je ne vais pas finalement revivre ce que j'ai vécu avec mon manager, avec mon équipe, avec ma mère et mes sœurs, quoi, hein. Donc, si je sors de médiation, c'est très complémentaire, je trouve, de se dire, bah, tiens, si moi, effectivement, je suis ce fameux manager où je me suis rendu compte que, bah, suite à la médiation, waouh, mais il y a tellement de choses dont je ne me suis pas rendu compte, je trouve que c'est très complémentaire pour moi en tant que manager de me dire, OK, bah, je vais travailler sur moi, en fait. Hein. Suite à cette médiation, ça va me permettre de travailler, de cheminer un peu plus loin que la médiation. Hein, puisque en médiation, même si l'effet d'une médiation peut être thérapeutique, parce que du fait de m'avoir laissé la parole, j'ai cheminé en moi, le but de la médiation n'est pas un travail intérieur et de cheminement et de progression. Ce n'est pas du tout le but. Et là où je trouve que c'est complémentaire, c'est que le coaching, lui, va permettre une progression, on va fixer des objectifs pour pouvoir monter en compétences. Et c'est ça où je trouve que c'est intéressant. Alors peut-être pas en même temps, parce qu'effectivement, suivre un coaching en même temps qu'une médiation, ça peut déjà que le fait de participer à une médiation peut me mettre à rude épreuve, pas forcément en même temps, mais un puis l'autre peut être intéressant et très complémentaire. Si on commence par l'option, je fais un coaching suite à une médiation. Eh ben, j'ai beaucoup d'exemples de ce que j'ai vécu en médiation qui me permettent de dire que ben, je veux travailler sur ça, ça et ça. Hein. Et puis le contraire est aussi possible. Hein. Lorsque j'ai commencé à me former en coaching et que j'ai fait mes premiers coachings, pour vous donner un ordre d'idée, moi, les coachings sur lesquels j'interviens sont des coachings soit individuels, soit collectifs. Et souvent, la thématique de mes coachings tourne autour de la relation, hein, de la relation difficile.
La relation.
Par exemple, J'ai un collaborateur qui s'appelle Pascal. J'ai beaucoup de mal avec lui et en fait, j'ai pas du tout conscience de ma responsabilité dans la relation. J'ai envie de lui mettre des baffes à chaque fois que je le vois, donc je vais faire un petit coaching pour quand même apprendre à gérer nos différences de personnalité, etc. Et en fait, on se rend compte parfois qu'à la fin de ce type de coaching, on peut prescrire la médiation, dire, écoutez, on a progressé, on a changé la relation avec Pascal, ça se passe bien en ce moment, mais par contre, il y a tout un vécu de la relation qui n'a pas été mis en mots. Et en fait, la médiation peut être très complémentaire d'un coaching également, en ce sens de dire, je ne pense pas que là, le coaching s'applique ad vitam aeternam. Et que si le jour où avec Pascal les choses se sentent encombrées à nouveau ou vous sentez que c'est irritant à nouveau, pensez à mettre des mots peut-être en faisant intervenir un tiers. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai vécu un coaching et que j'ai progressé dans mon élan que la relation va tout à fait bien se passer à tout temps. Il peut y avoir des différences de perception, il peut y avoir des quiproquos qui n'ont pas été débriefés. Là où c'est complémentaire, c'est que la médiation peut permettre à l'autre qui n'est pas présent dans les séances de coaching de s'exprimer. Hein.
Voilà, c'est ça. Essayer de travailler plus peut-être sur la relation que sur des objectifs à atteindre. Personnel ou de performance ou pour atteindre, je ne sais pas, peut-être un certain, un peu plus de compétences ou de gagner en compétences ou en... C'est plus le coaching, alors que la relation, bah, ça se travaille plus au niveau de la médiation, hein, c'est ça.
Tout à fait. Par exemple, moi, je me rappelle avoir vécu un coaching où au bout de la troisième séance, en général, les coachings que je pratique, moi, c'est minimum 6 ou 7 séances parce que je considère qu'en 2 ou 3 séances, on ne peut pas vraiment travailler. Et je me rappelle qu'au bout de la cinquième séance, je me suis dit, mais en fait, là, je me suis gourée parce que, en fait, je découvre qu'il aurait fallu faire une médiation et que là, moi, j'ai pas la vision de l'autre, et ça, on peut pas le savoir malheureusement. On fait un diagnostic au départ quand on est consultant. On peut faire des entretiens préalables avec la personne qui a demandé un coaching et son commanditaire, mais lorsqu'on met les pieds dans une situation et qu'on se rend compte au bout de la sixième séance qu'en fait, ce qui aurait vraiment été efficace, c'est la médiation, bah, c'est trop tard. Donc, on peut la prescrire une fois que l'action est finie. Bien évidemment, c'est pas nous qui allons pouvoir la faire, mais c'est pas grave. C'est pas
Oui,
le coup.
j'allais en venir justement, Amandine, excuse-moi, je te coupe, mais nous sommes bien d'accord qu'un médiateur qui intervient en médiation ne peut pas continuer à faire le coaching, un coach ne peut pas continuer à faire la médiation si c'est lui-même, en fait, s'était engagé dans le coaching.
Alors moi, je le recommande pas. Voilà, moi, je recommande absolument pas.
Déontologiquement, je pense que c'est pas tout à fait recommandable.
Ouais. En revanche, c'est bel et bien mon client. C'est-à-dire que c'est bel et bien la personne que j'ai décidé d'accompagner. Donc, c'est un système relationnel. Et donc, c'est mon intérêt de lui dire, bah voyez, là, on en est à la sixième séance. Ce serait intéressant, puisqu'il nous reste 2 séances, de réfléchir à la médiation. Ce ne sera pas moi qui interviendra. Par contre, ce sera quelqu'un de mon cabinet. Donc, je vais recommander, par exemple, un collègue à moi. Donc, ça peut être tout à fait une recommandation de ma part, mais par contre, ce ne sera pas moi qui gérera, qui mettra en place la médiation, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà commencé un travail intérieur avec l'une des parties, et que de fait, comme je suis en soutien de l'une des parties, ma neutralité est entamée. C'est-à-dire que je peux décemment pas y aller, puisque j'ai déjà une grande partie de mon rôle de coach sur le fait d'aider l'autre, de le faire progresser, de le faire réfléchir. Idem dans l'autre sens. Idem dans l'autre sens. Je fais une médiation et je me rends compte qu'il faut absolument que le manager y réfléchisse à un coaching. J'ai suffisamment de confiance dans la relation avec lui pour lui dire. Et donc, s'il me dit, bah, moi, j'aimerais bien que ce soit vous, je vais lui dire, bah, c'est pas possible. En fait, là, je viens de terminer une médiation avec vous. Pour moi, c'est impossible. De vous accompagner en coach, parce que là, moi, j'ai entamé un travail avec vous de médiateur. En revanche, d'où l'intérêt de travailler en réseau, en médiation, pour que je puisse faire intervenir. Hein. Je fais intervenir régulièrement des personnes en médiation quand j'ai terminé un coaching ou un coach quand j'ai fini un travail de médiation.
Voilà, d'où on revient à la complémentarité et justement, voilà, un coaching ou une médiation peut compléter.
Ouais, ça me plaît beaucoup ce que tu dis. C'est que quand on est en médiation et puis qu'on voit qu'il y a des traits de personnalité, des postures qui nous font amener dans un conflit, en médiation, on n'a pas forcément le temps ni c'est le bon cadre pour travailler là-dessus. Donc, que la personne puisse ensuite travailler là-dessus à l'individuel dans un coaching pour éviter, comme tu l'as très bien dit, c'est aussi souvent l'exemple que j'amène. Enfin, si tu ne travailles pas en profondeur, si tu ne travailles pas tes postures de manière de voir, etc., ce qu'on n'a pas forcément le temps en médiation, tu vas retomber dans le même conflit 6 mois plus tard avec quelqu'un d'autre, soit avec la même personne. Donc, c'est. Ouais. Au niveau de posture ou des outils du processus, comment vois-tu les similitudes au niveau du coaching et de la médiation? Commençons par la posture, par exemple.
Sur les similitudes, donc comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a des notions quand même qui sont présentes dans les deux, hein. Par exemple, avoir la juste distance, l'impartialité, bien sûr, un autre outil très courant qu'on va retrouver dans les deux postures, c'est le questionnement, hein. Le questionnement, la reformulation, l'écoute est très présent en coaching aussi, hein, également. Donc ça, c'est pour les similitudes, hein. Un coach ou un médiateur, quand il arrive dans un système donné, il va faire des entretiens préalables, il va écouter ce qui se passe avant de proposer une action. Hein. Normalement, en tout cas, moi, c'est comme ça que... Et sur les différences, alors, dans le coaching, on vise un objectif. Dans le coaching, on choisit un objectif. Donc, on va réunir l'équipe ou on va faire une réunion avec la personne et on va lui demander, OK, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les prochains mois? C'est-à-dire que c'est vraiment... L'image du coach sportif, d'ailleurs, le coaching vient de l'expérience américaine d'un coach sportif, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre pour tes championnats d'Europe? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme chemin d'ici 6 mois? Eh bien, je voudrais être un manager plus apaisé, qui gère mieux son temps, j'aimerais ne pas perdre mes moyens quand je prends la parole en réunion. Donc ça, c'est vraiment une différence par rapport à la médiation. C'est-à-dire que si Joël, je suis avec toi en coaching, je vais te dire, bah, Joël, qu'est-ce qui te pose des difficultés dans ta posture, toi, en ce moment, de chef d'entreprise ou d'entrepreneur? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et on va fixer un objectif. Et tu vois, ce drapeau qu'on va planter en haut de la colline, on va toujours le garder en ligne de mire. Ça, c'est très différent de la médiation, parce qu'en médiation, on n'a pas du tout d'objectif, on ne va pas du tout citer ou situer une progression d'une compétence. On ne va pas du tout et chercher à améliorer quoi que ce soit. En médiation, on est dans un objectif totalement différent. L'idée de la médiation, c'est vraiment la relation. On va mettre au cœur de nos réunions la relation et on va s'intéresser au lien. Hein, donc, on n'est pas du tout dans un objectif de changement comportemental ou de compétence. On va chercher justement à rétablir la relation pour trouver une solution. Donc ça, c'est tout à fait différent. Ça veut dire qu'en médiation, à la base, il y a un litige, il y a un blocage, il y a un obstacle. Et par rapport à cet obstacle, on ne va pas se dire, bon, ben ok, les gars, on va chercher à atteindre cet état-là, ce sujet-là, on va progresser dessus. On va dire, ok, ben là, il y a un blocage. Donc d'abord, on va chercher à rétablir la relation pour trouver une solution. Deuxième différence, dans le coaching, justement, c'est la personne qui est mise en perspective. C'est vraiment... C'est toi, ta vision, tes croyances, ton approche, alors que dans la médiation, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est la relation en elle-même, comment est-ce qu'elle a été vécue, c'est pas la personne qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, comment est-ce que les choses ont été vécues dans la relation, dans l'historique de la relation. Hein. C'est vraiment ça qui est intéressant. Troisième différence, dans le coaching, on fait faire des exercices. Ça, je m'arrêterai là pour vous donner la parole, parce que peut-être j'en dis trop, mais...
Non, 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 au contraire, non, non, mais ça me fait venir des
Passionnant.
questions, donc je les garde, vas-y.
N'hésitez pas à m'interrompre, mais dans le coaching, on fait faire des exercices, c'est-à-dire que de séance en séance, on va demander à la personne de revenir dans le concret. C'est OK, ben maintenant on est descendu dans des prises de conscience, on a pris du recul sur la situation, et puis vous m'avez raconté un historique, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait et comment vous allez rendre ça concret? D'ici la prochaine séance, on va donner par exemple des plans d'action, des exercices, des fiches pratiques. Ça, on ne l'utilise pas du tout en médiation. Le médiateur n'est pas du tout là pour faire exercer les gens. Alors peut-être qu'au cours de la médiation, on va peut-être faire un petit schéma pour montrer, ben voilà. Au niveau systémique, bah, regardez comment est-ce que chacun, bah, là, vous en êtes là, Attention, parce que c'est intéressant dans l'écoute que vous puissiez vraiment voir que bah, y a, on n'est pas là pour dire qui attend. Ok, on va peut-être faire des petits croquis, prendre du recul, mais on ne va pas faire quelque chose à nos parties. On ne va pas leur dire bah, d'ici la prochaine fois, vous allez réfléchir chacun à vos croyances. En tout cas, moi, je ne le pratique pas. Pour moi, c'est dans la médiation, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le vivant pendant la séance et pendant. Pendant l'écoute de l'autre. Je n'ai pas d'exercice à donner pour faire progresser de quoi que ce soit. Voilà.
Peuvent cheminer entre-temps, mais bon, il n'y a pas de, c'est sûr qu'il n'y a pas de, comme tu dis, d'exercice ou de d'objectif à atteindre pour une prochaine séance.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre médiateurs, parfois, dans les partages de pratiques, on voit que certains d'entre nous qui sommes formés au coaching peuvent se permettre des libertés. Par exemple, j'ai un collègue médiateur. Alors moi, j'arrive pas à le faire, mais je trouve que c'est hyper intéressant. En début de médiation, il fait respirer ses parties. Donc, il fait 5 minutes de respiration consciente.
Intéressant,
Ça,
bah oui, c'est bien ça.
c'est un exercice de coaching. Donc, on met les personnes dans un état particulier pour travailler mieux ensuite. Mais ce sont des moments où je vais prendre une certaine casquette, et ça, c'est vraiment l'objet, je pense, de la discussion aujourd'hui, mais je suis consciente d'une petite casquette de coach que je mets 5 minutes pour faire respirer les personnes. Parce que c'est une forme d'exercice de mise en situation qui n'est pas forcément. Voilà, l'objet de la médiation, ce n'est pas forcément de faire respirer les gens. Mais en l'occurrence, je vais reposer ma petite casquette quand j'aurai fini mon croquis, quand j'aurai terminé mon petit exercice de mise en état intérieur, pour vraiment revenir à ma posture de départ, qui est celle de l'écoute neutre, hein, pour travailler le lien et la relation, quoi. Même chose dans l'autre sens. Même chose dans l'autre sens. Si je suis en coaching d'équipe avec un objectif de cohésion d'équipe, avec, je ne sais pas moi, une journée team building où je vais travailler avec eux et je m'aperçois qu'à un moment donné, il y a une tension, il y a un conflit dans l'équipe, bah peut-être que je vais mettre ma casquette de médiateur, mais peut-être pendant 1 heure en leur disant, écoutez, là, je pense qu'il y a un point d'accroche sur lequel vous n'avez pas du tout la même vision. Et en fait, on va prendre 1 heure et on va écouter les uns et les autres sur ce qui s'est passé. Okay? Pour atteindre cet objectif de cohésion d'équipe, ça me semble important. Pareil, je vais peut-être faire un exercice, là, plutôt de l'ordre de la médiation, mais je suis consciente que je ne suis pas en train de faire une médiation au global, une médiation conventionnelle, avec des entretiens préalables, avec des plénières, etc. C'est juste un moment donné. Je vois qu'il y en a deux ou trois qui se fritent et qui fait que bah, ça bloque ma journée. Je dis, bah, écoutez, on va prendre 1 heure, puis on va écouter ce qui s'est passé pour vous, pour les uns et pour les autres. Quelque part, je fais de la gestion des conflits, quoi.
En t'écoutant, je crois que la grande différence, comme tu l'as dit, c'est qu'en médiation, on n'a pas d'objectif, alors qu'en coaching, on a un objectif de fin. C'est certainement une des grandes différences. Mais en t'écoutant aussi, on est conscient que là, peut-être je change de casquette, mais est-ce qu'on peut dire qu'en coaching, enfin, il n'y a rien en coaching qui est complètement impossible à faire en médiation, qui serait contre la déontologie ou quelque chose? Est-ce que tu dis les exercices entre séances? En médiation, moi, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, notez pour la prochaine séance, parce que comme ça, si une des parties n'arrive pas trop à s'exprimer, donc ce n'est pas du tout interdit. On ne le fait pas souvent, c'est vrai, voire très peu, mais ce n'est pas contre la déontologie. Est-ce qu'il y a quelque chose en coaching qui serait contraire à la déontologie? Est-ce que tout ce qu'on a en coaching, tous les outils, on pourrait théoriquement les utiliser en médiation?
Alors, je pense que la question, elle doit être posée autrement. C'est qu'est-ce que tu as, toi, mis en place comme cadre? Quel est le cadre que tu as mis en place au départ? Je rappelle que les coachs, comme les médiateurs, n'ont pas d'objectif de résultat. Ils ont un objectif de moyens. Idem que les médiateurs. Simplement, eux, ils sont appelés dans une situation, ils vont fixer des objectifs et des buts pour qu'il y ait une progression. C'est ça l'idée du coach. Hein. L'idée du coach, il va chercher à accompagner l'autre à travers une progression avec un contrat. On s'est dit, OK, au départ, tu es cette personne-là, tu as envie d'être cette personne-là, comment on y va? Donc la question, c'est plutôt comme ça qu'elle doit être posée. C'est quel est le cadre que tu as institué au départ, qui ensuite, tu peux prendre les libertés que tu souhaites, mais tout en gardant en mémoire le cadre que tu as posé au départ, puisqu'à la fin de ta mission, il va falloir que justement, tu réinstitues ce cadre. Plus ton cadre est clair pour toi, plus effectivement, tu peux te permettre de prendre des libertés. En revanche, si tu dis au début de ton coaching collectif, bah, écoutez, on va faire une sorte de médiation. Parce que je sens qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe. Et en fait, on va faire une sorte de facilitation. Ça va très bien se passer. et tu fixes un objectif qui est de rétablir la relation. On va rétablir la relation. Et puis en cours, tu sais plus vraiment où t'en es parce que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis médiateur là? Parce que normalement, là, en médiation, tout est confidentiel, alors que là, du coup, j'ai fait un retour de plus. Enfin, je suis un peu perdue parce que du coup, je m'étais dit que je ferais des exercices. Et le cadre que j'ai fixé, il n'est pas si clair pour moi. Et c'est plutôt ça que moi, je recommande et que je dis, attention, tu peux prendre les libertés que tu souhaites dans ta mission si tant est que ton cadre est très clair. Soit c'est une médiation, avec une médiation conventionnel et donc c'est marqué sur ton contrat, à ce moment-là, il n'y a pas d'objectif de progression, si ce n'est l'objectif de rétablir la relation pour trouver une solution, quand même, il faut se le dire, la médiation, notre rôle, c'est quand même de rétablir les conditions possibles d'un dialogue pour que les personnes trouvent par elles-mêmes les solutions. Donc il y a bel et bien un but, hein, notre mission, c'est ça. Et donc ça, je l'annonce en tant que tel. Soit c'est une mission de coaching, et alors une mission de coaching, je la conduis avec un objectif de progression et à la fin, je dois demander aux personnes quels changements elles ont vécu, comment elles l'ont vécu par rapport à l'objectif qui avait été fixé au départ.
Donc, ça veut dire que le cadre est très, très important. Dès le départ, à poser, il faut bien savoir sur quoi on part et être bien clair et précis, en fait.
Moi, je trouve. Moi, je pense que c'est important.
Et si c'est pas clairement amené, moi, j'ai plus ou moins régulièrement des entreprises qui me contactent, qui me parlent d'accompagnement d'équipe, coaching d'équipe, etc. Dès qu'on discute, et même, en fait, ils passent par mon site de médiation. Tu vois, je suis médiateur. Donc, ils m'approchent en tant que médiateur. En me parlant de coaching d'équipe, d'accompagnement d'équipe, juste parce qu'on n'aime pas parler de conflit. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Si tu as une situation comme ça, tu te la mets dans quelle case, dans le sens, est-ce que tu mets plutôt, tu essaies de convaincre de mettre ça dans la case médiation, peut-être, après, tu dois quand même dire aux gens, donc en fait, l'idée de ne pas parler de conflit, enfin, tu peux pas, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire, la problématique, je sais pas si tu as ce genre de situation aussi. Je me demande, on met ça plutôt en coaching, j'ai plus de souplesse. La question peut-être, est-ce qu'on peut faire un type de médiation dans un cadre de coaching? Par contre, on ne peut pas faire un type de coaching dans un cadre de médiation.
Ah oui, c'est sûr que ta deuxième option de faire un type de coaching dans la médiation, c'est compliqué. Mais
On revient sur le cadre, non, Amandine, je...
tu peux proposer un accompagnement d'équipe et au final faire une médiation. C'est juste que ton cadre, il sera pas aussi sécuritaire que si c'est une médiation, je trouve. Tu vois? Je trouve que si c'était moi, je ferais d'abord des entretiens avec toute l'équipe. Préalable et je ferai une recommandation et si je m'aperçois que vraiment le problème c'est un conflit alors je proposerai plutôt une médiation claire et franche en disant c'est tout votre intérêt de faire une médiation parce que un accompagnement d'équipe déguisé en médiation bah c'est pas clair pour l'équipe quoi c'est-à-dire que
C'est ça.
et donc ça veut dire que en général, les accompagnements d'équipe qu'on nous demande pour une équipe qui ne va pas bien et qui est dans le flou, si nous-mêmes on est dans le flou, ça n'aide pas le système. Je préférerais que le client te réponde, bah non, une médiation, c'est vraiment pas possible parce que ça veut dire que j'ai été dans l'échec. Et à ce moment-là, bah ok, bon bah on oublie l'option médiation, mais alors à ce moment-là, moi je pars plutôt sur une journée de cohésion d'équipe et on l'appelle cohésion d'équipe, on l'appelle pas facilitation, voilà. En tout cas, ça, moi, c'est mon empreinte parce que comme je suis formée en médiation et qu'il y a certains coachings collectifs qui s'en rapprochent, je préfère soit que tout soit d'une couleur, soit tout soit d'une autre. Même si dans ta journée de cohésion d'équipe, tu peux certainement à un moment donné faire une heure de facilitation parce qu'il faut donner de l'écoute. Tu verras qu'il y a beaucoup d'écoute. Voilà. Et c'est important, Pascal, excuse-moi, mais c'est important en fait de aussi d'assainir quelque part avant de pouvoir intervenir, d'assainir les relations et les tensions avant d'intervenir en tant que coach. Parce que vous imaginez arriver, je suis coach, alors qu'il y a des problèmes interpersonnels, il y a des conflits qui sont bien déguisés, comme tu dis, Amandine, ben, comment faire? Donc là, c'est plus judicieux peut-être de partir sur une médiation pour assainir justement toutes ces problématiques interpersonnelles et puis après les accompagner vers un objectif bien précis ou faire de la cohésion d'équipe. Mais la cohésion d'équipe, ça ne peut pas se faire si à la base il y a des soucis de relationnels. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, on dirait que le coach, il est là pour travailler uniquement quand tout va bien, mais le coach, il arrive dans le même pétrin que le médiateur, hein, c'est pareil, hein,
Mais quand tu fais un diagnostic, tu te rends bien compte qu'il y a des problématiques relationnelles, qu'il y a des conflits bien enfouis, hein, dans l'iceberg, comme on dit, dans la partie immergée. Et donc, à ce moment-là, bah, vaut mieux peut-être traiter les problématiques relationnelles plutôt que de partir sur un coaching dès le départ.
Partir sur un coaching collectif pour traiter les problématiques relationnelles, c'est juste quel est le cadre que tu choisis pour le faire.
Okay, donc c'est le cadre en fait qui va déterminer la suite.
Les personnes sont pas toujours prêtes. Les personnes sont pas toujours prêtes à signer un contrat de médiation. Parce que c'est fort.
Parce que ça parle de conflit, comme tu le disais, Pascal.
Parce qu'on va dire que le problème, c'est la relation et qu'on va demander aux gens de se responsabiliser à 100% de ce qui est en train de se passer. Et ça, eh ben, ça, elles ne sont pas toujours prêtes à le faire. D'où le fait qu'en général, une journée de cohésion d'équipe où on fait comprendre aux gens que si la relation, elle n'est pas purifiée, pacifiée par un acte de médiation, ben, elles peuvent faire toutes les conférences et toutes les actions de cohésion d'équipe, ça ne marchera pas. D'où le fait que moi, souvent, je préconise à la fin de mes actions de coaching. Et la prochaine fois qu'il y a un bisbille, au lieu de faire appel forcément à, je sais pas moi, à une journée de team building où on va faire du paintball tous ensemble, ben, au lieu de mettre ses sous dans ce type d'action, eh ben, c'est mieux d'appeler un médiateur sur ce type de sujet. Mais quel est le cadre qui est posé au départ? Est-ce que les personnes sont prêtes à entendre qu'il va y avoir un médiateur qui va arriver dans une équipe? C'est ça en fait.
C'est
Comment
fort, hein.
Comment est-ce que j'amène l'idée de la médiation en la dédramatisant pour que les personnes acceptent de se parler? Parce que la médiation, mine de rien, en France, elle a cet aspect quand même encore très institutionnel.
Oui,
Et donc
et
c'est, oh,
péjoratif aussi, très négatif.
ah, on fait appel à un médiateur, c'est du sérieux, etc.
Veut
Non.
dire qu'il y a des
Ouais.
conflits. Non, 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 pas du tout. Ça, ce terme-là est quand même assez problématique, en fait. Prononcer le mot conflit, ouh là là.
Peut-être là, il y a quand même un défi parce que je me dis que toute demande de coaching d'équipe cache en quelque sorte un défi relationnel, donc un conflit. Mais on ne peut pas forcément le nommer comme ça, on n'a pas envie. Ou... Ouais. Ça peut-être quelque chose à développer là-dessus. Comment amener ça? Mais peut-être, ouais, dans beaucoup de situations, le coaching est plus facile à mettre en place, tout à fait.
D'où l'intérêt aussi, donc je me dis tout en discutant avec vous, d'avoir quand même une casquette, peut-être pas complètement une casquette de coaching, de coach, mais quand même d'être sensibilisé aux outils du coaching, à la posture du coach, de savoir en fait exactement de quoi il s'agit, tout comme le coach va savoir aussi, il a intérêt à savoir comment est-ce que le médiateur, quelle est sa place, la posture du médiateur et comment il travaille.
C'est pour ça que je propose aux coachs là en ce moment de se former sur 3 jours aux outils de la gestion des émotions difficiles, de la gestion de conflits, parce que je suis persuadée que s'ils se retrouvent justement en plein milieu de cette fameuse journée ou de ces fameux 2 ou 3 jours de coaching, de savoir débloquer avec une casquette de gestion des conflits, avec l'écoute et la reformulation sur des situations très difficiles, et surtout de savoir prescrire une médiation, c'est-à-dire
Intéressant, ouais.
j'ai terminé mon travail de coaching, qu'est-ce que je dis quand je m'aperçois qu'il y aurait besoin d'une médiation? Et comment je fais en sorte qu'on me fasse assez confiance après mon action de coaching pour dire non, mais en fait, on a très bien travaillé. Donc, pas délégitimer sa pratique, mais vous voyez, là, on a passé une journée sur la relation, on n'a pas terminé, et en fait, moi, je ne peux pas aller plus loin parce que mon job, ce n'est pas d'être médiateur, c'est de vous faire progresser vers ces objectifs que vous avez choisis, parce qu'on
C'est
rappelle quand
ça.
même, en fait, dans le cadre du coaching, ce sont les parties qui choisissent l'objectif avec le commanditaire. Donc, mon job est fait. En revanche, comment dédramatiser la médiation pour que le coach soit quelqu'un de confiance? On va peut-être rappeler après dans un autre cadre d'intervention en disant, vous nous aviez parlé de quelqu'un qui faisait de la médiation et on pense que ça peut être intéressant de le faire. Voilà.
Et tu n'aurais pas une autre formation aussi, à l'inverse, former les médiateurs aux outils de coaching.
Alors, ben, je crois que donc à l'IFOMEN, il y avait donc dans le DU2 des approches, un module sur les outils de coaching au service du médiateur. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a surtout des modules de PNL hein, qui sont proposés en médiation. Mais si je puis me permettre, je trouve que dans la communauté des médiateurs, c'est difficile d'imaginer, enfin c'est plus difficile, je trouve, d'imaginer qu'on a besoin de se familiariser avec la posture du coach pour mieux la préconiser plutôt que l'inverse. Parce que je trouve qu'on a eu tellement de mal en médiation à développer notre cadre, notre professionnalisation, à légitimer notre posture. Souvent, j'entends derrière le dialogue des médiateurs, bah, on n'a pas fait tout ça pour se faire un peu emmerder par les coachs et leur travail. On a tellement galéré à délimiter notre cadre, nos interventions.
C'est vrai, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est très intéressant d'ouvrir justement le champ et de travailler avec des coachs, de se former même aux outils du coaching, parce que on peut très bien aussi les utiliser et préconiser des coachings suite à des médiations. Ça arrive que quand j'interviens en médiation, je sente que il y a des managers qui ont besoin en fait d'être coachés.
Ben c'est
Mais
ça.
j'hésite, je ne sais pas trop en fait ce dont ils ont vraiment besoin, qu'est-ce que le coach peut leur apporter aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt, quelque part, en discutant voilà, avec vous, je me dis, c'est certain, hein, il faut absolument qu'on élargisse le champ aussi de la boîte à outils et de la prescription. Ce n'est pas parce qu'on a fait une médiation que c'est fini, c'est bon, tout est beau, tout est lisse, tout est génial et ça va bien se passer.
C'est comme en médiation familiale, tout compte fait, suite à une rancœur entre deux frères et sœurs ou dans une famille où il y a énormément de difficultés. Ce n'est pas du tout étonnant que soit préconisé par l'une des parties de la famille de dire, et ce serait peut-être bien qu'on fasse une thérapie familiale suite à ça, parce qu'on se rend compte que, ou tiens, ce serait bien que j'aille bosser ça en constellation familiale parce que je vois bien que j'y arrive pas. Ou ben tiens, peut-être maman, est-ce que tu pourrais peut-être te faire accompagner aussi par un psychologue avec le deuil de papa, ça va peut-être. Voilà, c'est facile de se dire dans le domaine familial, on préconise, je ne sais pas, l'intervention de l'assistante sociale, du psychologue, de la thérapie. Ben, en entreprise, finalement, c'est aussi de dédramatiser et d'ouvrir les barrières et de se dire, ben non, en fait, quand je suis coach, je travaille pas que de mon côté, il y a plein d'intervenants qui peuvent être utiles et sachez que la médiation existe. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que la médiation? Ben justement, le travail du coach, c'est de dédramatiser un petit peu notre action, d'assouplir et d'ouvrir vers d'autres champs en disant, ben nous, on a fait un bon job, mais sauf que mon job, ça ne sera pas de suivre la relation et de voir comment ça évolue. Et idem pour le médiateur, je ne suis pas tout seul en médiation, je peux tout à fait ouvrir sur, ben, peut-être vous pourriez consulter ben, un notaire pour connaître vos droits en tant que chef d'entreprise. Peut-être là, ce serait intéressant de faire appel à un coach pour votre jeune manager qui vient d'arriver parce qu'il prend sa poste, il prend son poste en fait, hein, à tout ce qui est. En fait, un coach, il peut vraiment aider sur tous les changements. Une prise de poste, une fusion-acquisition, le changement dans une équipe, quelqu'un qui a eu un accident du travail et toute l'équipe en pâtit, donc on a besoin de renforcer un peu la cohésion de l'équipe. Mais tout changement dans l'entreprise ou dans le domaine de l'organisation ou de la famille peut être amener un coach, parce que le coach va faire réfléchir la personne de qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre comme objectif pour qu'elle soit plus efficace et prenne plus de plaisir au travail, en fait. C'est ça l'idée.
Ouais, moi, ça me parle beaucoup. Je crois que parfois, on est un peu obstiné par nos terminologies, par justement. Bah, là où il faut faire attention, si tu dis je fais une médiation et tu es médiateur accrédité, tu dois respecter les règles de la fédération ou de l'organisme auquel tu es soumis. Ça, c'est une évidence, que ce soit coaching ou médiation. Mais peut-être, il y a des situations où voilà, on a meilleur temps de ne pas appeler ça exactement comme ça. C'est peut-être pas une médiation, une intervention, un accompagnement. Et puis là, finalement, on sera très libre. Je peux toujours mettre d'accord toute l'équipe sur la confidentialité des choses que je fais typiquement en médiation. Je peux le mettre dans un cadre que j'appelle accompagnement ou que j'appelle autrement. Moi, j'aime beaucoup je pense que je vais carrément adapter mes pratiques. Parce que voilà, quand j'interviens, je fais un contrat de médiation. J'interviens comme médiateur. Mais peut-être la bonne approche, c'est comme tu as dit avant, hein, c'est analyse. C'est-à-dire le contrat, il porte d'abord sur l'analyse, recommandation. Et à partir de là, tu fais ton intervention que tu appelles comme tu veux finalement, enfin en fonction des besoins.
Oui, moi, quand je travaille en tant que coach, souvent, je m'aperçois qu'après les analyses, donc que j'appelle des diagnostics, je les appelle des diagnostics relationnels, Je fais souvent une journée de formation sur la gestion des conflits. Je leur dis, voilà, moi, ce que j'ai compris de ce qui se joue, c'est que vous avez du mal à vous parler, donc on va commencer par vous sensibiliser aux outils de la gestion des conflits. Et je fais une journée, tu vois, sur, j'en sais rien, là, je donne un exemple, mais elle n'est pas exactement comme ça à chaque fois, mais peut-être une demi-journée sur comment gérer ses émotions quand j'ai envie de péter un plomb contre l'autre, et la deuxième demi-journée sur comment je peux m'exprimer une fois que j'ai géré mon émotion. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être de combiner la formation avec ensuite une action peut-être d'écoute. Effectivement, je vais peut-être mettre tout le monde autour de la table au moins une fois, mais je vais peut-être pas faire que de la médiation, mais au moins mettre tout le monde autour de la table une fois. Et puis ensuite, peut-être je vais terminer par de l'analyse de pratique. Ben voilà, comment ça s'est passé ces derniers mois, comment vous vous êtes parlé, qu'est-ce qui s'est passé, ben tiens, comment tu aurais pu le dire autrement. Et ça, on ne le fait pas en médiation. Donc, le coach, c'est vraiment, pour moi, c'est une porte d'entrée de couteau suisse qui est de dire, ben, chaque situation est différente et je ne peux rien dire tant que j'ai pas analysé le système. Donc, bien sûr, le commanditaire peut me dire, bah déjà, rien que la phase d'analyse, c'est un certain budget. Bah oui, mais sauf que si vous voulez que j'arrive et que je fais une médiation, alors que c'est pas du tout une médiation qui c'est pertinente, ou je fais un coaching, alors que en fait, il fallait faire une médiation, c'est dommage. Ou alors, peut-être qu'il y a un combiné de formation avec de l'analyse de pratique, mais ça, on sait jamais. Et à la fois, ça laisse un cadre, Pascal, tu as raison, un peu plus de liberté, et en même temps, je trouve que la médiation, grâce au cadre qui est tellement sécuritaire au départ, hein, qui sécurise tout le monde, et on arrête de dire en fait qu'on n'est pas en conflit, mais c'est affiché en disant on va s'occuper que de la relation. En fait, je trouve que c'est pratiquement là où il y a le plus de liberté, tellement le cadre est clair. Je sais pas si.
C'est vrai, ouais, tout à fait.
C'est-à-dire qu'on arrête de dire qu'en fait on va faire de la cohésion d'équipe. De la CNV, machin. En fait, on va se rassembler autour d'une table et on va dire que vraiment, en fait, on est en conflit, en litige et que tant qu'on n'a pas réglé ça, ça ne marchera pas. Et en fait, moi, des fois, ce cadre-là, dans le coaching, il me manque parce que je me dis, c'est dommage parce que finalement, avec une médiation, on ne peut pas mentir, quoi. Si je viens en médiation, j'ai signé un tellement d'engagements parce que tu as vu les engagements qu'on demande, hein. Je veux dire, on demande la sincérité, le respect mutuel, que chacun s'écoute. Et que c'est entièrement confidentiel et donc ce cadre sécuritaire permet tellement de choses dans la liberté de ce que je peux aboutir. Hein. Tu vois, c'est intéressant. C'est dommage parce que c'est vu comme un cadre qui est hyper figé, qui est hyper institutionnel. Et les mecs, ah bah ouais, mais en plus en médiation, on a le droit de venir avec des avocats et tout. Et en même temps, c'est ce cadre qui est tellement fort et sécuritaire qui permet une aisance de liberté incroyable. Quand en coaching, tu te dis, putain, merde, j'ai des objectifs. Ah, oh, putain, j'ai des objectifs de ça. Donc, ça veut dire que, à la fin de ma mission, on va faire le bilan. Est-ce qu'on a rempli
Ah
les objectifs? Eh ben, t'as beaucoup moins de liberté aussi, tu vois. T'as beaucoup moins de
ouais.
liberté parce que tu te dis, bah, des salariés, ils vont tous dire, ah, bah oui, on a atteint nos objectifs, hein. C'était super. Amandine, elle a fait un super job. On a tout atteint comme il faut. Parce que, bah, le commanditaire a payé l'action. Donc, tu vois, c'est intéressant, la limite. La limite entre comment je me sens dans mon cadre de liberté et qu'est-ce qui me permet quand le cadre est posé, la limite est fine parce que finalement tu peux dire que le coaching c'est beaucoup plus souple, mais en fait, comme tu as aussi des objectifs, comme tu fixes des objectifs, c'est intéressant de voir que la médiation finalement est beaucoup plus libre quand les gens ont accepté. Le seul truc, c'est comment tu l'as fait accepter.
Ah, voilà, c'est ça. Comment les faire venir autour de la table
Ouais.
pour parler de ce qui est fâche, en fait.
C'est ça. Et c'est là où peut-être le judiciaire n'a pas tout ce job à faire parce que comme tu es mandaté,
Ouais,
quoi,
ça.
si, parce que les gens acceptent de venir en fait parfois alors qu'ils n'ont pas envie d'être là, quoi, hein. Voilà.
Ouais, donc médiateur et coach très complémentaires. Question, c'est comment je mets ça en place au niveau de mon approche de voilà, qu'est-ce que je propose quand, à qui
C'est ça, qu'est-ce que la personne veut pour l'équipe, comment elle voit les choses, est-ce qu'elle a déjà entendu parler de la médiation? Si elle n'en a pas entendu parler, qu'est-ce qui pourrait l'aider à sentir à l'aise à faire cette action-là? Et puis si ce n'est pas du tout de la médiation et que c'est plutôt une équipe à emmener dans un changement avec une progression, on n'est pas sur de la médiation. Donc peut-être ça sert à rien de mettre tout le monde autour de la table parce qu'il n'y a peut-être pas de litige, mais il y a peut-être une volonté juste de clarifier et d'emmener tout le monde dans une dynamique collective. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le coaching, c'est accompagner le système pour atteindre des objectifs et c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait le même élément. Mais en conclusion, oui, à un moment donné, je peux sortir ma casquette de médiateur, ça peut peut-être m'aider. Oui, peut-être. Ou alors en médiation, peut-être que je peux prendre ma casquette de coach et faire des petits croquis et montrer aux personnes qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de dynamique humaine, en termes de PNL, en termes de posture. Et le plus important, c'est dans quelle casquette je suis et quel cadre j'ai posé au départ.
Ben, passionnant, hein, ce sujet. On pourrait encore en parler pendant des heures à travers nos différentes expériences. Merci beaucoup, Amandine Bernascon, d'avoir accepté cette invitation et de partager justement voilà, ton expérience, ces différentes casquettes que tu as entre coaching, médiation, accompagnement d'équipe, facilitation aussi, que des termes en fait. Qui porte un petit peu de l'espoir, hein, qui apporte de l'espoir pour des équipes, pour des parties, mais attention quand même à comment les utiliser. Et que, je crois qu'on a fait un petit peu un bon tour là, et puis on va se donner rendez-vous peut-être pour un prochain épisode, d'autres thèmes, hein, à aborder ensemble. Donc,
Merci beaucoup, Amandine. Très passionnant.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
Ouais, j'ai trouvé ça ouais, très, très intéressant aussi et bah, passionnant de partager ça avec vous.
À très bientôt.
Merci, à bientôt.